BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Tourelle.
Un peu plus de 10h sur BFM Business. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est BFM Patrimoine. On est ensemble jusqu'à midi. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement, hein, avec nos meilleurs experts pour vous éclairer dans vos choix d'investissement. Au sommaire de cette émission, tout d'abord dans la première heure, bien entendu, on va parler immobilier comme toujours et faire aujourd'hui le bilan d'un printemps raté pour le secteur. C'est ce que nous dira notre invité. Comme toujours, on vous donnera des idées de placement. On évoquera notamment ceux adaptés à la retraite des indépendants. Dans la deuxième heure de ce BFM Patrimoine, ce sera l'œil du stratège pour passer en revue toute l'actualité des marchés. Nous serons avec Hortense Lacroix d'Arbevel aujourd'hui. Et puis, bien entendu, on prendra des nouvelles de notre portefeuille, la fameuse sélection BFM Patrimoine. Mais avant tout cela et de faire le point sur la séance à la Bourse de Paris, eh bien, c'est l'essentiel de l'écho avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, les prix de l'alimentaire vont-ils baisser dans les supermarchés après avoir obtenu la mise en place d'un trimestre anti-inflation dans la grande distribution? Le gouvernement met désormais clairement la pression sur les industriels pour qu'ils répercutent la baisse des prix de l'énergie et des matières premières. Bruno Le Maire veut rouvrir les négociations commerciales et faire baisser les prix de l'alimentaire d'ici à l'automne. Et si les prix peuvent effectivement reculer d'ici là, ce ne sera pas une baisse généralisée. C'est ce qu'a expliqué Dominique Schelcher, le patron de Système U, et Jean-Philippe André, le président de l'ANIA, qui représente les industriels de l'agroalimentaire. Ils participaient tous les deux au débat ce matin dans Good Morning Business.
Entre le 21 avril 2022 et le 21 avril 2023, le tournesol baisse de 48%, le blé dur de 11%, l'orge fourragère qui sert à la nourriture animale de 36% et le colza, une autre huile, de 53%. Donc l'idée, c'est ce que disait Bruno Le Maire, c'est de réouvrir les discussions au plus vite.
Si j'ai acheté mon blé il y a 6 mois à un indice 100, et même si cet indice aujourd'hui il était à 95, vous savez très bien que je dois attendre la fin de mon taux de couverture pour revenir vous voir. Il ne faut pas donner l'impression de faire un procès en responsabilité.
Alors,
on fera notre job.
Dans le reste de l'actualité, les finances publiques se dégradent encore. Le déficit budgétaire s'élève désormais à 54,7 milliards d'euros à la fin du mois de mars, fin février. Il dépassait légèrement les 50 milliards d'euros. BNP et Paribas engrangent un bénéfice record de 4,4 milliards d'euros au premier trimestre, dopé par la cession de sa filiale américaine Bank of West. Le produit net bancaire équivalent du chiffre d'affaires est en hausse de 1,4% à 12 milliards. La première banque européenne est en bonne voie pour battre un nouveau record cette année, après les 10 milliards de bénéfices engrangés en 2022. Toujours dans le secteur bancaire, UniCredit multiplie par 7 son bénéfice net à plus de 2 milliards d'euros au premier trimestre, porté par la hausse des taux d'intérêt. C'est nettement supérieur aux attentes. La deuxième banque italienne relève ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Stellantis publie un chiffre d'affaires en hausse de 14% au premier trimestre à 47 milliards d'euros, porté par la hausse des ventes en volume et la hausse des prix. C'est supérieur aux attentes. 1,4 million de véhicules ont été vendus sur les trois premiers mois de l'année, soit une hausse de 7% sur un an. Dans l'aérien, Lufthansa réduit sa perte à 467 millions d'euros au premier trimestre, après 584 millions sur la même période l'année dernière. La compagnie se montre confiante pour cet été et prévoit même un boom de demandes en voyage. Et puis au Royaume-Uni, le régulateur des marchés veut alléger les règles de cotation à Londres, où les IPO ont chuté de 40% depuis 2008. L'autorité britannique lance une consultation jusqu'au 28 juin pour simplifier ces règles et encourager les introductions en bourse. Le nouveau règlement devra être publié à la fin de l'année ou en début d'année prochaine, Vincent.
Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collo, on vous retrouve tout à l'heure à 11h pour un nouveau point sur l'actualité économique. Comme promis, on file chez Euronext à la Bourse de Paris donc pour prendre des nouvelles du CAC 40 qui se reprend de 0,48% aujourd'hui. Aude Kersulek est là-bas pour nous. Bonjour Aude. Donc on se reprend, mais on est loin de reprendre ce que l'on a perdu hier, puisque au fil de la séance, eh bien, on a terminé sur un net repli hier soir.
Oui, on perdait 1,4%. Là, on reprend 0,49%. Alors, c'est un rebond technique, hein, réaction technique, parce qu'on avait vu qu'il y avait de forts dégagements hier sur certaines valeurs, notamment Total Energy, qui avait perdu quand même plus de 5%. Une forte capitalisation qui avait entraîné le CAC à la baisse. Alors, forcément, ce matin, il y a des acheteurs, hein, sur la valeur Total Energy. Et on rebondit, hein, déjà de, eh bien, de un petit peu plus de 1%. C'est le cas de ArcelorMittal également, hein, plus 1,2%, 25,67 €. Alors qu'hier, c'était le secteur des ressources naturelles dans son ensemble qui était pénalisé. On a le luxe également qui porte la tendance, hein, plus 1,2% pour LVMH à 879 €. Et puis des valeurs aussi exposées à la Chine, notamment Pernod Ricard, plus 1,7%, 215 €. L'arbitrage de publication aussi, des publications ce matin, Stellantis, eh bien, c'est finalement mal accueilli, hein, puisque le titre perd 2% à 14,42 €. Alors le chiffre d'affaires de Stellantis a battu les attentes des analystes. Il est en hausse de 14% au premier trimestre, mais c'est une hausse de 7% seulement des livraisons en des volumes, des livraisons de véhicules. Et les stocks se sont aussi accrus à cause de problèmes de logistique. Voilà peut-être ce qu'arbitrent les investisseurs ce matin à propos de Stellantis. Et puis on regarde aussi les résultats dans la banque. On a eu ce matin la BNP Paribas, première des banques françaises à publier. Un résultat de 2,8 milliards d'euros. Si on regarde, hein, le résultat qui montre la performance intrinsèque, donc sans le résultat de cession de Bank of the West, le PNB, le produit net bancaire, est en hausse de 5% à 12,5 milliards. Alors, les banques françaises qui prennent peut-être plus tard, hein, l'effet des hausses de taux sur l'économie, mais l'activité de banques de financement et d'investissement, contrairement aux banques américaines, elle ne faiblit pas tant que ça, puisqu'elle est même en progression par rapport à l'an dernier, de même que la banque de détail, la banque privée ou encore les activités d'assurance. Donc c'est assez stable au niveau des progressions sur les secteurs d'activité sur lesquels opère la BNP. Pourtant, c'est une publication bien de laquelle le marché parisien passe un petit peu à côté, parce qu'on monte seulement de 0,3% sur BNP. C'est une valeur qui est finalement peu arbitrée. Et du côté des bancaires, il faut finalement aller voir ce qui s'est passé sur UniCredit à Milan. La valeur est arbitrée de plus de 6%, à 18,76 €. Alors le bénéfice est en hausse, est même multiplié par 7 par rapport à l'an dernier. C'est surtout une banque qui relève ses recommandations. Donc finalement, c'est une très belle année qui s'augure pour UniCredit, et c'est salué donc à la bourse de Milan. Sur les plus petites capitalisations, on notera sur Casino Guichard, c'est une valeur quand même qu'on regarde de près ici, sa note de crédit a été abaissée, hein, la nuit dernière par Fitch. On est passé de B- à CC-, donc quand même à 1 chouïa du défaut. Donc on regardera quand même ce qui se passe, mais pour l'instant le marché parisien passe complètement à côté, puisque la valeur est en hausse de 1,6% à 8,16 €, donc sur Casino Guichard. Et puis une publication qui est aussi très mal accueillie, c'est celle d'Imerys. On est dans les minéraux. Il faut dire que le chiffre d'affaires est stable voire négatif, hein, périmètre et taux de change constant, moins 0,9%. Le groupe avance des conditions de marché difficiles. La marge a même baissé, hein, par rapport au premier trimestre l'an dernier, et la valeur est en baisse de 5,4% sur le marché parisien, 35,16 €. Le programme de la journée pour les boursiers, ce sera aux États-Unis de suivre, eh bien, ce rapport ADP qui sortira à 14h15 sur les créations d'emplois, et puis bien sûr ce soir le rendu de décision de la réserve fédérale, avec donc hausse des taux attendue en de 25 points de base, et surtout les explications de Jérôme Powell à 20h30 dans sa conférence de presse. Voilà, le CAC 40 au rebond ce matin, plus 0,57%, 7425 points.
On accélère un tout petit peu depuis quelques instants. Merci beaucoup Aude Kersulec, en direct d'Euronext, comme tous les matins sur BFM Business.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Et ce rendez-vous Pépites et Pipos, c'est avec Sébastien Lemonnier ce matin. Bonjour Sébastien.
Bonjour Vincent.
Gérant action chez Inocap Gestion. Ce matin, votre pépite est allemande, c'est Derma Pharma AG. On rappelle l'activité, pharmacie, parapharmacie.
Alors, c'est une pépite, mais ce n'est pas une recommandation d'achat. Mmh. C'est un exemple parmi nos convictions d'investissement. Donc en effet, l'allemand Derma Pharma, sa prononciation, dont nous avons sensiblement renforcé notre exposition au portefeuille ces derniers mois, notamment au sein de notre fonds Quadrige Europe Midcap, où elle constitue actuellement notre principale pondération. Alors, fondée en 1991 dans la région de Munich, Dermapharm concentre l'essentiel de ses profits à produire et à développer une large variété de produits pharmaceutiques de niche non régulée. En 2022, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires autour de 1 milliard d'euros, majoritairement réalisé en Allemagne, où il emploie à peu près 2500 salariés. Sur l'ensemble de ses produits, Dermapharm bénéficie localement de solides parts de marché en croissance dans les domaines notamment des vitamines, de la dermatologie et des corticoïdes. En effet, l'innovation permanente sur ces produits constitue chaque année un moteur sensible de sa croissance organique, en moyenne historiquement supérieure à plus 4%. Par exemple, sa franchise d'activité principale, qui réalise autour de 10% de son chiffre d'affaires, est spécialisée dans la vitamine D et profite de la reconnaissance grandissante de sa contribution au renforcement des défenses immunitaires, alors qu'en moyenne 65% des populations du nord de l'Europe souffrent de carences, notamment par manque d'ensoleillement. Alors, fort d'un actionnariat familial, mais également d'une équipe de direction de grande qualité, dont le directeur financier a d'ailleurs récemment acheté des actions à titre personnel, Dermapharm bénéficie à la fois de grandes efficacités industrielles, notamment sur son principal site de production modernisé, situé à Brenna, que nous avions visité en novembre dernier, ainsi que dans l'organisation de sa distribution qui participe ensemble à la génération d'une rentabilité opérationnelle qui a été en moyenne de plus de 18% depuis 2016. Alors que le groupe a profité de son savoir-faire industriel pour participer à la production du vaccin BioNTech contre le Covid ces dernières années, en générant un chiffre d'affaires autour de 150 millions en moyenne pour une rentabilité élevée, la normalisation en 2022 du contexte sanitaire a fortement impacté à la baisse les estimations du consensus sur l'évolution à venir des profits du groupe et a expliqué la baisse du titre d'environ 60%. Pour autant, nous estimons que les qualités intrinsèques de Dermapharm ne sont potentiellement pas bien appréhendées dans la valorisation actuelle. En effet, en retraitant selon nos estimations la contribution du vaccin, le titre traite sur un multiple d'environ 11,5 fois le résultat opérationnel. En dépit d'une activité robuste à travers le cycle, de position leader, d'une rentabilité opérationnelle élevée et d'un niveau de retour sur capitaux employés supérieur à 20%. Aussi, au démarrage de cette année 2023, nous estimons que le groupe amorce un nouveau chapitre dans son accélération de croissance avec la récente acquisition du groupe français Arco Pharma, spécialiste européen dans les domaines de la phytothérapie, des médicaments naturels et des compléments alimentaires, qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros, avec historiquement une croissance organique qui a été de 4 à 5% par an. En effet, nous pensons que cette opération de croissance externe devrait permettre au groupe d'internationaliser ses succès commerciaux, notamment en France, en Espagne et en Italie. La complémentarité des produits des deux entités nous laisse penser que le groupe devrait bénéficier dès 2022 des premières synergies de vente, mais aussi de l'amélioration de la rentabilité opérationnelle d'Arco Pharma par des effets de synergie de coût.
Et votre conviction, Sébastien, sur Dermapharma ? Décidément, je ne sais pas pourquoi je mets un A à la fin. Dermapharm, quelle est-elle cette
Dermapharm,
conviction ?
Dermapharm, tout à fait. Ouais. Et donc, on a un titre qui se traite aujourd'hui sur, selon nos estimations, d'ici 12-18 mois, sur un multiple inférieur à 11 à 12 fois le résultat opérationnel, ce qui nous semble trop conservateur et sensiblement sous-valorisé vis-à-vis des comparables européens tels que Rovir et Cortati ou Amiral, dont les valorisations historiques étaient en moyenne plus proches d'un multiple de 14,5 fois.
Et on est en ce moment même à 43,90€ sur Dermapharm, voilà, j'aurais bien dit au moins une fois, alors que le consensus de marché, l'objectif de cours moyen des analystes est à 56€. Merci beaucoup Sébastien Lebonnier d'avoir été avec nous ce matin, gérant action chez Inocap Gestion, pour cette pépite Dermapharm.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et ce point macro, c'est avec Michel Martinez. Bonjour Michel Martinez.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste Europe à Société Générale CIB. Alors au programme, il est très simple ce programme. La Fed ce soir, la BCE demain. On commence par la Fed. Verdict ce soir, bon, le plus probable, c'est une hausse de 25 points de base des taux de la Fed.
Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doutes. Il y a un large consensus des opérateurs de marché sur cette hausse de 25 points de base avec donc montant les taux de la Fed entre 5 et 5,25. Et donc, mais le sujet, c'est pas, je pense que c'est pas celui-ci. Le sujet, c'est savoir si c'est la fin.
Dernière. Ouais.
C'est ce que le marché attend et si Powell va effectivement signaler que voilà, la Fed maintenant va faire une pause.
Donc la pause, elle pourrait durer jusqu'à la fin de l'année. Sauf les éléments s'accélèrent.
C'est la seconde. Ouais. Ça, c'est le premier sujet. Donc, ouais. On a atteint les taux terminaux, on arrête, on va attendre que le durcissement des politiques monétaires et en plus le durcissement des conditions de crédit avec les problèmes et turbulences dans le secteur bancaire aux États-Unis suffisent. Et le second sujet, c'est effectivement, est-ce que dans le discours de la Fed, dans ses prévisions économiques, il y a l'idée qu'on pourra avoir ce que le marché attend, donc c'est des baisses de taux en fin d'année. Le marché price même plus pratiquement deux baisses de taux directeurs d'ici la fin d'année.
Ah oui.
Historiquement, ça s'est jamais produit. Monter aussi rapidement et puis baisser aussi rapidement à moins d'une crise majeure. Donc nous on est plutôt sur une pause longue et donc des baisses de taux plutôt dans le seconde partie de 2024.
Mais il faudrait vraiment que la crise des banques régionales s'accélère encore pour qu'on en vienne à des baisses de taux à la fin de l'année.
Il faudrait une crise majeure, d'où qu'elle vienne. Je ne sais pas si c'est du côté des banques régionales pour que la Fed baisse les taux. Nous, c'est pas notre scénario du tout. Ce qui est surprenant, c'est que le marché attend finalement un ralentissement. Quand on regarde le consensus des économistes, un ralentissement économique en seconde partie de l'année, surtout du marché du travail, une hausse du taux de chômage. Mais qui est modéré finalement et une baisse de l'inflation sous-jacente, c'est ça. En fait, le pari sur la baisse des taux de la Fed en seconde partie, ça repose sur ces deux facteurs. Ralentissement du marché du travail, ralentissement des salaires qui sont à plus de 5% en ce moment, ralentissement majeur de l'inflation sous-jacente qui a 5,6% en seconde partie de l'année, ça paraît des ralentissements forts, hein, qui est, on va dire, en dessous de 3% pour les salaires et l'inflation sous-jacente pour que la Fed puisse se sentir à l'aise avec les baisses des taux. Ça nous paraît peu probable.
D'accord.
En tout cas, alors, historiquement, ça s'est jamais vu.
Alors, l'autre rendez-vous, c'est demain, hein, la BCE. La BCE qui est en retard dans son cycle, hein, par rapport à la Fed, aussi relever ses taux. Mais là, on ne sait pas trop si ça va être 25 ou 50 points de base. Vous penchez pour quel scénario?
Nous, on est resté sur 50 points de base. On doit être les seuls. Le consensus, il est plutôt vers 25 points de base. Mais vous avez raison de mentionner que la BCE n'est pas du tout dans la même situation de la Fed, à savoir, on n'est pas proche des points de terminaux. Et donc, que ce soit 25 ou 50 points de base de hausse des taux, je pense que la BCE va signaler que d'autres hausses des taux sont nécessaires. Et effectivement, si c'est une hausse de 50 points de base de taux, elle se rapprochera plus vite du taux terminal. Donc, le ton sera plutôt dove. Donc, un durcissement peut être nécessaire, mais il sera par petits pas. Alors que si c'est une hausse de 25 points de base de hausse des taux, la BCE, aura un discours au quiche, à savoir que d'autres hausses des taux seront nécessaires pour s'assurer que l'inflation revienne vers la ligne des 2%.
Parce qu'on voit
que l'inflation est élevée.
On l'a eu les chiffres hier.
Oui, 5,6% d'inflation sous-jacente. Donc, l'inflation totale est ralentie, ça va continuer. Mais 5,6% d'inflation sous-jacente, avec une forte présomption que l'inflation sous-jacente reste au-dessus de la ligne des 5% jusqu'à la fin de l'été, c'est pas une configuration suffisante pour rassurer la BCE. Donc elle va dans tous les cas, elle va nous dire qu'elle remonte les taux à 3,25 ou à 3,50, elle va nous dire que il faudra continuer à remonter les taux.
À surveiller donc sur BFM Business, hein, puisqu'il y a une spéciale bien entendu sur cette antenne demain à partir de 14h, animée par Guillaume Sommerer. Merci beaucoup Michel Martinez d'avoir été avec nous pour ce point macro, chef économiste Europe de Société Générale CIB.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Et pour parler immobilier ce matin, Ludovic Usieux est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur d'Artemis Courtage. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un printemps raté, on peut le dire, hein, dans l'immobilier. Depuis l'été 2022, le marché du crédit immobilier est englué. Le taux d'usure, l'inflation en tour à tour, endosser le rôle de bouc émissaire. Alors qu'en est-il quasiment un an après ce début de blocage? Le taux d'usure, première question, est-il encore une barrière à l'accès au crédit?
Moi, aujourd'hui, la mensualisation du taux d'usure qu'on avait appelé de nos voeux et qui a été proposée de février à juillet joue le rôle quand même de modérateur ou de ressort. On a un peu plus de fluidité, c'est-à-dire que quand les banques sont mal positionnées, quand elles ont raté leur grille de taux, elles ont pas 3 mois à attendre, mais seulement 1 mois. Donc c'est quand même plus simple et ça donne un peu de fluidité. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus le principal problème. On a encore des dossiers qui viennent taper l'usure dans certains cas, notamment sur des problématiques d'assurance ou sur des taux très hauts, sur des profils qui sont jugés être des profils d'entrée de gamme par les banques, mais c'est pas vraiment ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Le taux d'usure, c'est un peu rentré dans le rang. Je vous dis, la périodicité mensuelle nous aide beaucoup et ça a décongestionné quand même l'accès au crédit, ou en tout cas l'accès aux banques.
Alors c'est quoi le principal problème? Il y a les normes du HCSF qui sont souvent citées.
Oui, c'en est un, effectivement. Ouais. Pourquoi c'est un problème? Parce que, je rappelle la règle, c'est que 35% des revenus peuvent être destinés à rembourser un crédit immobilier, assurance comprise. Ce qui peut paraître quelque chose de tout à fait normal. Le problème, c'est que depuis un an, les taux ont triplé quasiment. Et que ce taux de 35%, lui, est figé. C'est une norme maintenant.
On emprunte à un peu plus de 3%.
Alors
ce
c'est
jour,
ça,
c'est
on
ça
est.
On a passé le cap des 3%.
C'est la durée la plus utilisée, c'est entre 20 et 25 ans. Hein, c'est la moyenne de durée des crédits aujourd'hui. On est aujourd'hui en moyenne sur 3,30, 3,40, 20 ans.
Ah oui.
Ça augmente de 0,20 tous les mois.
D'accord, donc on file vers les 4% là.
On file vers les 4%, il y a fort à parier. On sera probablement à 4% pour fêter la rentrée de septembre.
Donc, norme du HCSF,
trop norme du HCSF, ouais. et puis l'autre vrai frein, c'est que y a quand même pas mal de guichets bancaires qui sont fermés aujourd'hui et qui n'acceptent plus de dossiers de crédit, ou alors au compte-gouttes, c'est-à-dire pour leurs clients ou leurs meilleurs clients, mais qui n'acceptent plus de dossier de prospect. Et on se retrouve parfois, dans certaines régions, pas toutes, mais quand même, on se retrouve parfois à ne pouvoir travailler qu'avec 2 ou 3 banques. Ce qui complique quand même, effectivement, d'abord la mise en concurrence des établissements bancaires, c'est notre métier, et l'accès au crédit pour tout type d'emprunteurs, à plus forte raison, évidemment, et comme souvent quand il y a des problèmes d'accès au crédit pour les primo-accédants.
Alors, est-ce qu'une partie de la solution, c'est le prêt à taux révisable? Dans quelle mesure c'est avantageux, le prêt à taux révisable?
Je dirais qu'il faut distinguer 2 cas.
Ouais.
Il faut distinguer en fait la destination du crédit. Si vous financez une résidence principale et que vous n'avez donc pas de revenus en face, par définition, c'est à fonds perdu, c'est votre charge d'habitation pour habiter votre résidence principale. Il faut quand même être un peu prudent, parce que vous allez aujourd'hui dans un cycle de hausse soutenue intense, vous allez emprunter, allez probablement à 0,20 de moins que si vous aviez emprunté à taux fixe. En revanche, le risque de prendre 1% d'augmentation, parce que c'est un taux révisable au bout d'une année de référence, de fixité de taux, ce risque, il est quand même élevé aujourd'hui. On voit que les taux ont quasiment triplé en une année, donc on peut se dire qu'on aura encore fait un bout de chemin dans la hausse d'ici l'année prochaine.
On entend parler aussi de lettre de confort. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est une lettre de confort et est-ce que c'est une bonne idée?
On utilise aujourd'hui tous les moyens pour rassurer nos partenaires banquiers, dont les lettres de confort. C'est la validation par nos experts courtiers de la capacité d'emprunt des prospects qu'on reçoit ou des futurs clients qu'on reçoit. On valide avec eux, effectivement, après avoir vu une liste de documents importante, on valide ensemble que, effectivement, l'apport est suffisant, que le taux de charge n'excède pas 35%, qu'on a vérifié l'intégralité et la probité des relevés de compte, des avis d'imposition, et qu'ils sont tout disposés à emprunter selon les normes du moment qui sont quand même particulièrement restrictives.
Donc ça peut faire la différence, ça, avoir une lettre de confort quand on ça sollicite.
Ça peut d'abord rassurer les vendeurs, ouais. Les professionnels de l'immobilier, que sont les agents immobiliers, et qui se disent que dans une période effectivement où les taux grimpent, où le marché est plutôt stagnant, voire un peu baissier, immobiliser un bien 3 mois ou 4 mois sans avoir fait vérifier préalablement le plan de financement par un professionnel, vous voyez l'enjeu, ça peut immobiliser un bien plusieurs mois et le remettre en vente, c'est possiblement synonyme d'une remise en vente avec un prix inférieur, ce qui ne satisfera pas les vendeurs et ni même l'agent immobilier.
Où est-ce que les prix baissent? Vous observez dans quelle ville en particulier ça baisse?
Alors ça baisse de ce qu'on observe,
ouais,
nous,
de ce que vous observez.
Des indicateurs d'activité qu'on tire de nos bases. Ça baisse d'abord dans les villes.
Vous savez beaucoup monter.
Ouais, exactement. Vous savez ouais. Beaucoup monter dernièrement.
D'accord.
C'est-à-dire que.
Quoi, depuis la fin du Covid?
Ouais, c'est ouais. Ça. Toutes les villes de report entre guillemets.
Ah ouais.
En tout cas, celles sur lesquelles les Français avaient décidé de faire des résidences semi-principales ou du télétravail ou de rentrer à la maison, on se rend compte que comme il y a une pression acheteuse moins importante, les prix baissent un peu plus vite. Elles ont augmenté dernièrement. Enfin, les prix ont augmenté dernièrement et ils baissent les premiers dans les zones fortement tendues. C'est plutôt des ajustements Paris région parisienne. On peut pas parler moment
on peut pas
où
encore
on
parler de baisse à Paris région parisienne.
On peut parler de d'ajustement.
Certains
de baisse.
Réseaux parlent de baisse. Hein,
voilà. Non mais c'est quelques pourcents.
Ouais.
On va dire que c'est le prix d'une
ah,
bonne
oui,
négo.
Mais quand même.
Non, bien sûr, vous avez raison, mais ouais. c'est les efforts d'une bonne négo. On peut pas se dire que ça baisse. C'est encore dans des proportions qui sont de quelques pourcents. Vous avez raison, hein, le prix de l'immobilier à Paris notamment est très cher et quelques pourcents, c'est toujours bon à prendre quand on est acquéreur, mais ça résiste quand même plutôt bien et en tout cas ça ne baisse pas aussi rapidement que les taux de crédit ont augmenté pendant la même période.
D'accord, donc faudra attendre encore un petit peu de temps pour que ce soit vraiment intéressant. D'acheter à des prix.
Je suis même pas certain de ça.
Vous allez me dire que ça baissera pas ?
Non, mais c'est pas ça. Si, ça baisse, évidemment.
Parce que les taux des banques centrales, là, vont continuer de monter.
Vous avez raison. Ouais. Je regarde ça tous les jours et je partage vos analyses.
Ce serait pas aberrant que ça baisse après.
Non, ce serait pas aberrant, mais.
Vas-y, continue.
Il y a aussi quand même un problème de logement en ce moment, un accès au crédit qui est compliqué, un accès à la location.
C'est le cas depuis des décennies.
Oui, mais quand on distribue 35% de moins de crédit depuis le début de l'année, vous voyez bien que c'est plus difficile quand même d'acheter son premier appartement ou sa première maison, et que dans le même temps, l'accès à la location a été rendu
même pour
plus
louer,
facile.
C'est difficile.
Voilà, tout est un peu compliqué en ce moment, et c'est pour ces raisons que je ne suis pas certain que ça s'écroule, notamment dans les zones tendues. Ça va probablement corriger un peu, baisser un peu, j'en conviens, mais ce sera pas un crack comme certains l'ont prédit.
Ludovic Usieux, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, cofondateur d'Artemis Courtage. Bientôt 10h30 sur BFM Business. Nos traders sont d'ores et déjà positionnés. Hein, aujourd'hui, Jean-Louis Cussac et Gilles Santacreux. Et j'en profite pour vous rappeler que toutes les séquences de cette émission sont disponibles sur notre replay. Voilà, petite pause et on se retrouve pour notre match des traders. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Tourelle.
10h31 sur BFM Business. Effectivement, c'est BFM Patrimoine et c'est le match des traders avec aujourd'hui Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil et Gilles Santacreux chez Boursicoté.com. Bonjour messieurs. On va Bonjour. S'intéresser à cette séance de
Bonjour
rebond. Alors vous allez me dire si c'est un rebond de conviction ou simplement technique. Gilles, on commence avec vous. Votre analyse de ce qui se passe là depuis le début de la séance. On rebondit mais après avoir pas mal baissé quand même hier. C'est quoi ? C'est un rebond technique ?
Alors pour l'instant, oui, c'est un rebond technique. Ce que l'on a vu hier, donc sous la pression un petit peu du marché, c'est un retour sur une zone majeure qui était précédemment résistance, donc c'était une résistance majeure hein, qui avait longtemps capé les cours du CAC 40 à 7380 points. On est venu mourir sur ce niveau et ensuite on a rebondi et on en voit les effets donc ce matin. Globalement, et d'un point de vue court terme, tant que l'on ne dépasse pas 7450 points, cela ne change rien à la configuration actuelle. Nous sommes toujours dans une phase de consolidation consolidation. Alors, une phase de consolidation qui n'est pas bien méchante, hein, mais qui, pour l'instant, reste, je dirais, assez régulière et capée sous des moyennes mobiles qui nous indiquent qu'on est toujours dans ce mouvement. Ce qu'il faudrait pour vraiment sortir de ce mouvement, c'est casser à la hausse la zone des 7500 points. On l'a vu notamment la semaine dernière, cette zone a agi aussi comme une résistance. Alors, c'est une résistance mineure, mais globalement, vu la configuration actuelle, tant que l'on est sous ce niveau, tous les mouvements que l'on pourra avoir à la hausse, donc 7450 en intraday, 7500 en daily, ne seraient que des mouvements techniques. Il est difficile de parier sur un rebond puissant vu les échéances que nous avons aujourd'hui. On aura donc les ADP cet après-midi, on aura les PMI des services et surtout ce soir donc la Fed. Il y a fort à parier que cela pourrait brider, je dirais, toutes les velléités haussières que les investisseurs pourraient avoir d'ici là. On a une fin de semaine très dense hein, puisque demain on aura la BCE et vendredi on aura le NFP et globalement. On devrait en tout cas continuer à évoluer juste au-dessus de cette zone des 7380 points. Et tant que je dirais cette zone majeure n'est pas cassée à la baisse, pour l'instant, le signal de consolidation que l'on a depuis la semaine dernière reste relativement contenu et sans trop d'effet par rapport à la tendance globale.
Le NFP, donc, hein, les non-farm payroll, les créations d'emplois mensuelles américaines. Merci Gilles. Votre point de vue, Jean-Louis Cussac, chez Perceval Finance Conseil, on peut aller un petit peu plus haut ou est-ce qu'on est naturellement bridé par tout ce qu'on attend à ce que nous a décrit Gilles?
Si je m'en réfère au passé, on peut aller plus haut. Combien de fois le marché a donné des signes d'alerte et puis il a rebondi d'une manière incroyable. Là, ce qui est à noter, c'est que la baisse d'hier est un petit peu plus forte et le rebond d'aujourd'hui, il y a zéro volume. Vous vous rendez compte, on vient de franchir les 300 millions. 300 millions. Enfin, normalement, on est au minimum à 450 et souvent on est à 600. Donc il y a rien. Les investisseurs, les différents acteurs se posent beaucoup de questions. Les marchés actions alors cherchent des raisons de baisser, il y en a des tonnes des raisons, mais elles sont toutes identifiées. Donc si vous voulez, en général, ce sont des surprises qui viennent impacter le marché. Mais là, il y a le plafond de la dette, ok, tout le monde est conscient qu'il y a un problème aux États-Unis, hein, le stress bancaire, les menaces de récession, du coup la baisse du pétrole extrêmement forte, les taux souverains qui baissent. D'ailleurs, il baisse un peu plus aux États-Unis qu'en Europe. Du coup, l'euro-dollar est repassé au-dessus des indices. Enfin, il tourne autour. Hein. Mais bon, on reste acheteur sur l'euro-dollar, on reste acheteur sur le CAC. Alors, quand je dis on reste acheteur, c'est surtout que le sens prioritaire long terme acheteur n'est pas infirmé. Mais évidemment, ça fait des jours et des jours qu'il n'y a pas de relais. Ça fait des jours qu'on vous dit, bon, il faut rester prudent, il faut rester très opportuniste dans son comportement, il faut alléger ses positions de fond, bien sûr. Bon, voilà, on a déjà tout imaginé pour la suite des événements. Ce soir, on attend une dernière hausse des taux de 0,25 aux États-Unis. On a des petits warnings, mais il n'y a rien de très puissant. Voilà, écoutez, vraiment, les investisseurs sont aussi en train de vraiment de broder des scénarios autour des statistiques qui alternent parfois un petit peu bien, un petit peu moins bien, etc. Mais il n'y a pas vraiment de visibilité. Il n'y a pas vraiment une vraie colonne vertébrale à ce marché. On peut tenter des achats. Je pense qu'avec la vol est à 14, la volatilité est implicite. On peut se permettre des achats d'options. Vous voyez, moi, par exemple, ces derniers temps, sur des baisses de marché, je me suis dit, allez, je vais plutôt acheter des calls. Au moins, je sais ce que ça me coûte. Et le futur, l'infirmation, la neutralisation, c'est toujours pour moi hein, sous 7270 futur mai. Alors, il y a un écart entre le futur et le cash hein, d'une vingtaine de points. 20 et quelques points. Et donc, c'est aussi dû aux taux d'intérêt qui sont positifs, moins les dividendes. Rien à signaler de particulier. Faut pas surinterpréter. Vous voyez, par exemple, LVMH, qui gagne encore 1,50%, eh bien, la période où ils n'ont pas le droit d'intervenir, c'est terminé. Et Bernard Arnault a repris les achats via la financière Agache sur LVMH. Oui, donc c'est aussi une grande preuve de confiance sur le titre. Il en avait acheté avant, pendant, enfin, il a tout le temps acheté de toute façon. Donc, et il continue. On peut pas dire, pour l'instant encore, qu'il y a un changement majeur dans ce marché. Donc, on peut considérer que sur opportunité, on peut tenter des achats. Bien sûr, des ventes aussi, si on se protège sur des calls, on peut imaginer tout un tas de choses. Mais le scénario de fond, c'est que la hausse long terme, pour l'instant, n'est pas infirmée. Et preuve en est, les derniers rebonds, et pourquoi pas encore aujourd'hui. C'est tout à fait envisageable, même si pour l'instant, les signaux sont extrêmement faibles, via le volume notamment.
Tout est possible, si on vous comprend bien. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil, et Gilles Santacreux chez boursicotaire.com. Gilles, que l'on retrouvera tout à l'heure.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Bonjour Nicolas Dose.
Bonjour.
La polémique aujourd'hui, vous nous dites qu'on entre dans le dur de l'intelligence artificielle et de son impact. IBM en particulier annonce qu'il gèle les embauches sur des postes qui peuvent être remplacés par cette nouvelle technologie. On parle de combien de postes ?
On parle de 30% des postes administratifs chez IBM.
Administratifs.
Les postes administratifs chez IBM, ça représente 10% de l'effectif global, 26 000 personnes sur 260 000. Et donc IBM annonce hier qu'ils vont tout simplement renoncer. C'est pas de la suppression de postes, hein. Ils vont renoncer à 7800 recrutements d'ici à 5 ans. Alors, il s'agit de postes qui ne sont pas en relation avec le client, de postes sur des tâches répétitives qui peuvent être remplacées par des technologies nouvelles. La génération de mails automatiques, de textes, de lignes de code. Voilà. Donc des postes administratifs qui ne verront pas le jour, car l'intelligence artificielle est maintenant capable, en tant que substance au silicium, de remplacer certaines intelligences carbonées.
Est-ce que c'est le coup d'envoi d'un choc plus brutal à l'échelle mondiale?
Ce qui est certain, c'est qu'il va se produire quelque chose. Ouais. Il va se produire quelque chose. À chaque progrès technologique, que ce soit un simple progrès technique matériel, il y a eu des conséquences. Et là, on a eu quand même deux rapports coût sur coût qui nous laissent comprendre qu'on est face à une innovation de rupture qui va quand même avoir des conséquences lourdes. Vous prenez le rapport de Goldman Sachs qui a été publié à la fin du mois de mars, qui indique que l'intelligence artificielle va pouvoir, pas forcément remplacer, mais pouvoir remplacer un emploi sur quatre, notamment dans les pays riches, considérant qu'il y a 300 millions d'emplois potentiellement menacés par cette innovation. En même temps, cette intelligence artificielle est une source de gain de productivité, une source de croissance, une source de création de nouveaux emplois. Et puis vous avez exactement dans la même veine le rapport sur l'emploi qui vient d'être rendu public en fin de semaine par le forum de Davos, qui considère que dans les 5 ans qui viennent, c'est-à-dire un temps très court, eh bien on a environ un emploi sur 4 qui va être très profondément bouleversé, voire totalement remplacé. Il n'y a aucun secteur.
On donne un horizon là, dans ces publications.
C'est à 5 ans.
À 5 ans.
C'est à 5 ans.
Ah oui.
Et donc, il n'y a aucun secteur en plus qui est épargné. On a eu récemment là, une publication de NewsGuard, qui est un site spécialisé sur la lutte contre les fake news, et qui indique qu'ils ont identifié 49 sites d'information, partiellement ou intégralement rédigés par de l'intelligence artificielle, et le tout en 7 langues. De la même manière, on peut citer le groupe allemand Springer, groupe de presse, qui publie Das Bild et Die Welt. Ils ont déjà des postes qui ont été totalement confiés à de l'intelligence artificielle. Vous avez objectivement pas besoin d'avoir une petite main pour faire un copier-coller d'une brève de dépêche pour la mettre dans le journal du lendemain. Hein. Une intelligence artificielle est parfaitement capable de le faire. Et ça n'est qu'un début, et on voit que les choses vont quand même être... Ça ressemble un peu à un Big Bang du marché de l'emploi, dans la mesure où c'est très rapide et que ça concerne énormément de postes. Il y a moins de bouleversements quand vous passez... on peut citer, si c'est vrai, des innovations de l'histoire qui ont provoqué des bouleversements, quand on arrête la bougie pour passer à l'électricité.
Mais là, de façon si rapide...
Mais voilà, là, c'est très, 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 très rapide, c'est ça la nouveauté.
Bon, quand on entend tout cela, est-ce qu'il ne faut pas stopper l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut le faire?
C'était la fameuse idée de la pétition emmenée par Elon Musk à la fin du mois de mars, où il y avait plus de 1000 experts et scientifiques qui disaient faut faire pause, 6 mois de pause. Alors pourquoi pas 8 mois, pourquoi 6 mois? Bon. Avec la crainte pour le marché de l'emploi, la crainte aussi d'un univers de désinformation qui s'emparerait de nos esprits. Bref, la réalité, c'est que personne ne va faire pause sur l'intelligence artificielle. C'est à l'heure d'imaginer ça. Ce qui se passe chez IBM, c'est exactement le sens de l'histoire de l'homme avec le progrès technique. Enfin, qui imaginerait qu'une entreprise jette ses photocopieuses pour embaucher des dactylos? Qui imaginerait un transporteur qui met ses poids lourds au rebut pour utiliser des chevaux? Ou encore un agriculteur qui va labourer à la main? Est-ce que vous pensez qu'on va supprimer les mails pour tous reprendre des enveloppes timbrées qu'on va aller porter à la poste? Bien sûr que non. Et ce que fait IBM est totalement rationnel. S'il ne le faisait pas, ce serait anormal. Après, quand on regarde, encore une fois, le temps long, Tous les pays qui ont une croissance forte, qui sont aujourd'hui riches et qui ont un taux d'emploi ou un taux de chômage en tout cas relativement faible, sont des pays toujours très, très robotisés et très automatisés. Moi je me dis qu'effectivement on est face à quelque chose qui est potentiellement un peu systémique, une innovation potentiellement de rupture, et il est assez rare de qualifier une innovation de rupture. Si ça peut avoir au moins un effet positif, ce serait de bien faire comprendre que le problème économique numéro un d'un pays comme le nôtre, c'est l'école, et que tous les efforts doivent porter sur la formation initiale, en passant par la formation professionnelle, sans oublier l'enseignement supérieur. C'est le seul moyen pour avoir de la compétitivité, le seul moyen pour réduire vraiment les inégalités, et le seul moyen pour avoir une intelligence carbonée qui puisse rivaliser avec de l'intelligence au silicium.
Merci Nicolas Nicolados pour la polémique tous les matins dans BFM Patrimoine.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et notre invité à présent, c'est Jean-Baptiste De Pascal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général délégué d'Interinvest. Avec vous, on va parler des placements pour la retraite des indépendants. Tout d'abord, quelles sont les différences entre retraite des indépendants et des salariés?
La retraite des indépendants et des salariés a une différence importante, c'est que le régime n'était pas tout à fait aligné. Alors, le sujet en maintenant, c'est que les indépendants, c'est pas un univers. Les indépendants, c'est, il y a plusieurs catégories d'indépendants. On a, entre guillemets, nos vieux indépendants qu'on connaît plutôt bien, c'est les TNS, les travailleurs non salariés, profession libérale, type médecin, avocat, etc. Ouais, on a l'habitude, c'est nos anciens indépendants. Mais on voit maintenant arriver aussi des nouveaux indépendants, c'est la génération actuelle où on n'a plus de CDI, on devient freelance,
auto-entrepreneur.
Voilà, auto-entrepreneur ou avec une société en fonction du montant, on met déjà un pied dans l'indépendance et donc c'est des nouveaux indépendants avec des nouvelles problématiques, quelles sont leurs cotisations et qu'est-ce qui est vraiment préparé pour leur retraite.
Parce qu'on n'est pas forcément salarié de soi-même quand on est indépendant. Hein. On peut se rémunérer de façon différente. Quels sont les différents régimes de retraite des indépendants?
Alors, les régimes de retraite des indépendants, vous avez le régime classique, justement, des professions libérales. Mais vous pouvez aussi avoir un régime de la sécurité sociale des indépendants. Vous pouvez être assimilé salarié. Donc finalement, un indépendant, on peut le retrouver dans trois régimes différents qui est... pas tout à fait pareil en termes de cotisation et donc de préparation de sa retraite. Et c'est là où il peut y avoir justement des contraintes ou des questions, des problématiques particulières qui vont se poser, puisqu'il va se demander du coup quelle est ma retraite et comment je cotise. Et c'est ça qui est amusant quand on parle beaucoup quand même de la réforme des retraites.
Oui.
Finalement, on parle beaucoup de la réforme des retraites des salariés.
Oui. Alors les salariés, c'est quoi? C'est 90% des gens, non?
Oui.
Enfin, je dis 90, c'est peut-être 80-90.
Oui, mais et en même temps, on voit, il y a une vraie tendance de fond sur une certaine génération qui vous dit le Graal, c'est plus le CDI, c'est être freelance, être indépendant, travailler comme je le souhaite, donc finalement récupérer cette indépendance. Et eux, le fonctionnement de cette retraite-là, eh bien, elle est plus sur mesure, elle est plus différente et donc il y a une problématique particulière.
Donc quelles sont les principales problématiques des retraites des indépendants?
La problématique commune avec le salarié, c'est toujours la même chose, c'est ma baisse de revenus que je vais avoir quand je serai à la retraite. Et la problématique particulière, c'est l'absence de visibilité sur quels sont mes revenus, quelle est ma capacité à cotiser dans l'année suivante, dans les années suivantes, mais aussi dans le mois d'après. Et c'est là où, en fait, se pose le vrai problème, parce que on n'a pas forcément la capacité de cotiser la même chose.
Ouais.
Et quand vous commencez, par exemple, en indépendant, vous vous lancez, il y a des montants minimums à cotiser sur un trimestre. Si vous ne l'atteignez pas, votre trimestre n'est pas validé. Il ne compte pas, exactement.
Alors justement, parlons de placement pour la retraite des indépendants. Quelles sont les différentes solutions?
Alors, il y a trois grandes familles pour les indépendants de produits qui peuvent être intéressants, qui peuvent leur permettre justement de se faire leur retraite. Et ces produits peuvent être cumulés ou ajustés parce que justement, cette famille des indépendants n'ont pas tous la même problématique. Le premier, qui est celui qui englobe le plus, c'est la loi Pacte qui nous a mis en place le plan épargne retraite, le fameux PER. Ça, c'est sûr qu'il englobe bien toutes les activités qu'on va pouvoir mettre dedans parce qu'il est très flexible. Et contrairement aux anciens dispositifs, vous savez, quand vous aviez le Madelin à l'époque, quand vous versiez dessus, vous étiez obligé de continuer à verser dans votre Madelin. Là, un PER, une bonne année pour un indépendant, il peut verser, il peut même verser plus. l'année suivante, voire le mois suivant, il peut stopper ses versements.
D'accord.
Donc ouais. Là, c'est très adaptable justement à cette typologie d'indépendant où on n'a pas forcément une visibilité très certaine. Mmh. Donc ça, c'est un avantage de flexibilité, avec quand même la contrainte que ça renferme, c'est-à-dire que c'est bloqué jusqu'à la retraite. Donc finalement, attention à épargner ce dont on a besoin pour la retraite, mais pas aller au-delà.
D'accord.
Deuxième solution, c'est ce que les Français adorent, c'est l'immobilier.
Ouais.
C'est un dispositif immobilier type nue propriété, par exemple, où je vais avoir un actif immobilier, donc la capacité, parce qu'il faut quand même se rappeler que l'actif immobilier, en France, c'est le seul actif qu'on peut financer à crédit. Mmh. Ça a quand même un intérêt. Donc, on peut avoir un actif que je finance à crédit, mais en même temps, ne pas pénaliser ma situation actuelle, et c'est l'avantage d'un dispositif comme la nue propriété, où je ne vais pas avoir de revenus pendant une période de démembrement, par exemple, de 15 ans, mais en contrepartie, je l'ai acheté, on va dire, 40% moins cher. Ça, c'est un dispositif intéressant pour la retraite, mais qui ne va pas tous les concerner, parce qu'il faut que moi, en tant qu'indépendant, j'ai la capacité de verser dessus régulièrement et de suivre ce financement, notamment immobilier, que j'ai mis en place. Mais il ne va pas me pénaliser, parce qu'il ne va pas augmenter mes revenus, donc potentiellement ma fiscalité. Et ça, on adore en France, parce que c'est de l'immobilier. Et la troisième catégorie, c'est eh bien finalement, quelle est la catégorie d'actifs qui est du long terme et qui est bloquée, et donc qui pourrait correspondre à la retraite, c'est le capital investissement, finalement. Ça correspond exactement à des objectifs de retraite. Alors, quand on parle capital investissement en France, ou private equity, on pense au risque. On se dit, ah, je vais investir dans une start-up, peut-être que le capital investissement, c'est beaucoup plus large. Vous avez aussi des fonds, on peut mutualiser, on peut choisir son secteur. Et ça correspond.
On peut pas dire que c'est pas risqué, hein.
Non.
Mais c'est pas coté, donc on voit pas l'évolution du prix.
Exactement.
De ce que
il y a un aléa
de risque, de ce que l'on détient.
Mais je pense
que ça fluctue derrière.
Ça fluctue.
Ouais.
Mais quand vous avez un horizon lointain, c'est la meilleure façon de prendre du risque, en fait. Sinon, quand vous avez un investissement très court terme, il faut pas aller sur quelque chose de risqué.
Donc PER, immobilier, private equity. En conclusion, qu'est-ce que vous diriez? Il y a plein de situations différentes, donc il n'y a pas véritablement de placement.
Les indépendants, ils ont cette notion d'indépendance, ouais. Donc c'est un peu du sur-mesure, et on va fabriquer finalement pour chaque indépendant, en fonction de sa situation, voilà. De sa visibilité de revenu, son niveau
type.
De revenu, il n'y a pas de placement type, exactement.
Mais en
il faut
cas,
le construire.
Merci de nous avoir donné toutes ces pistes. Jean-Baptiste De Pascal, directeur général délégué chez Inter Invest. Au revoir.
Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Allez, avant de poursuivre sur les placements à 11h10 sur BFM Business, un petit coup d'œil du côté de la bourse avec une hausse qui s'accélère un petit peu sur le CAC 40, plus 0,61%. On est à 7428, c'est le luxe qui mène la danse aujourd'hui. LVMH gagne 1,65%, Hermès 1,60%, seul Essilor Luxottica fait un petit peu mieux avec une progression de 1,8%. Et du côté des baisses, on voit que Stellantis qui publie aujourd'hui a du mal un petit peu à convaincre et perd plus de 2%. Peut-être que l'on vend sur la nouvelle de ce chiffre d'affaires en hausse de 14% sur le premier trimestre. Tout ça, ça se fait avec un euro-dollar ferme, puisqu'on est à 1,1040 en progression de 0,3%.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Les SCI, les fameuses sociétés civiles immobilières, ont toujours le vent en poupe. Mais pourquoi un tel engouement et quels sont les mythes et les opportunités qui entourent cette typologie de sociétés? On écoute tout de suite les éléments de réponse avec Benoît Lombard, président du groupe Laplace, qui était avec nous il y a quelques jours.
Il y a toujours eu beaucoup de créations, mais c'est vrai que l'année dernière, il y a eu à peu près 120 000 créations de SCI. Mais dans le même temps, il y a 90 000 radiations. Parce que la société est dissoute,
voir le solde,
parce
alors.
Que les associés sont décédés, ou pour tout un tas d'autres raisons. Donc ça fait un solde quand même positif de 30 000. Ce qui fait que, à peu près, nos compatriotes effectivement sont friands. On estime à peu près 1 million de SCI en circulation qui fonctionnent en France.
Comment est-ce qu'on explique cet engouement?
Parce qu'il y a, on parlait de mythe et opportunité.
Ouais.
Une société civile, immobilière, est une société. Et c'est une société qui réunit au moins deux personnes.
Jusqu'à là, ça va.
Et la société qui encadre la règle, des associés, c'est le pacte social. Mmh. Et ce pacte social, il vise à quoi ? Ben, il vise à encadrer justement ce qu'il est possible de faire avec cette société qui est civile par l'objet, mais dont la forme peut-être commerciale, on en reparlera, et puis qui est immobilière. Mmh. C'est, tu détiens des biens immobiliers et les Français aiment l'immobilier.
Eh ouais, adore la pierre. On va voir les opportunités et les points de vigilance. Ces opportunités, en quoi est-ce intéressant ? Tout d'abord sur le plan juridique.
Ben, au plan juridique, il y a trois activités que peut faire la société civile. Elle peut détenir un actif immobilier qu'elle met à disposition à titre gracieux au profit des associés. Ça peut être une résidence qui constitue la résidence principale des associés. Mmh. Une jurisprudence de 74 l'admet. Elle peut louer nu ou meublé. Attention, sur la location meublée, on en reparlera après. Donc ces trois activités, activité résidence principale pour les associés, location nue ou location meublée.
Sur le plan fiscal, qu'est-ce que ça donne ?
Bah, au plan fiscal, il y a deux éléments à prendre en considération. Soit la SCI n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés, soit elle est assujettie à l'IR, c'est-à-dire elle relève de la fiscalité des personnes physiques. En réalité, elle n'est pas assujettie à l'IR, puisqu'elle relève de la fiscalité des associés. Mmh. Si elle est non assujettie à l'IS, eh bien là, on se retrouve avec la fiscalité qui dépend des associés. Alors, soit elle loue un bien immobilier, auquel cas les revenus sont générés au sein de la société, et puis sont ventilés entre les mains des associés, au prorata de leur part. On peut encapsuler aussi. Donc ça, c'est une société qui est à l'IS. Et là, il y a un intérêt, puisque les revenus qui sont générés, les revenus bruts, on peut mettre en face un passif ces revenus, qui sont l'amortissement du bien, les charges, etc. Et là, on a un revenu net. Et là, le fait d'avoir encapsulé au sein de cette entité à l'IS permet de distribuer ou pas distribuer sur décision des assemblées générales. Mmh. Et donc, c'est l'assemblée générale ou les assemblées générales qui peuvent décider de l'affectation du revenu. Et donc, on voit qu'on maîtrise la distribution. Et si on maîtrise la distribution, on maîtrise par la même la fiscalité qui s'attache aux associés qui reçoivent les revenus fonciers par l'intermédiaire de cette société à l'IS. Donc, il y a un intérêt en structure d'accumulation pour cette entité à l'IS.
Et l'intérêt en termes de transmission
des... Transmission, on en parle souvent. Donc, pourquoi ? Bah, pour une raison qui est très simple. On titrise un actif immobilier. C'est en ce sens que souvent c'est considéré comme le paragon d'immobilier. Donc le modèle ultime. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'on peut morceler les transmissions. On peut très bien détenir un actif immobilier. On va transmettre, je ne sais, à l'occasion volonté des parents qui détiennent 100%, bah 10% à chacun des enfants, 30%. Mmh. Ce qui est beaucoup plus difficile de le faire lorsque on détient un actif immobilier réel, parce que auquel cas on se retrouve en indivision et nul n'est censé rester en indivision. Mmh. Et auquel cas, n'importe quel des enfants peut sortir de cette indivision. Alors que là, les statuts encadrant la libre disposition des parts, la cessibilité des parts, on peut morceler. Et puis, la valeur d'actif au plan fiscal a du sens, puisque on a l'actif immobilier en tant que tel. On peut mettre la dette en face, et bien évidemment, si vous avez un actif qui vaut 100 000 et que vous avez une dette de 50 000, et bien l'assiette de transmission, là on le voit, c'est 50 000 euros. Donc ça obère. Il suffit aussi de transmettre en démembrement, on transmet la nue propriété aux enfants, et là, on obère là encore, on réduit encore l'assiette taxable. Donc c'est en ce sens que c'est considéré comme un instrument transmissif. On morcelle, et on a une valeur d'assiette qui est réduite. On peut aussi, bien évidemment, réduire la valeur de l'actif en tant que tel, parce que les statuts encadrent tellement la gestion du bien, que en réalité, on est un peu prisonnier de ses parts, même si ce principe est contredit, bien évidemment, par le droit en tant que tel.
Petite parenthèse, ça vaut le coup de faire une SCI à partir d'un bien. Alors, valant combien ou combien de biens ? Petite parenthèse. Hein,
oui, ouais, mais c'est intéressant. Ouais, il y a à peu près 25% des actifs qui sont détenus et qui constituent la résidence principale.
D'accord. Donc, une résidence SCI, principale.
25% des SCI, loge, abrite, c'est le cas de le dire, la résidence principale. Bon, 75%, c'est des biens qui sont loués. Et puisque c'est une société civile, il n'y a pas besoin d'avoir un capital social minimum. Et le capital social minimum, ils ont autour de 1300 euros, donc très faible.
D'accord.
Hein, donc des apports en compte courant permettent de financer et de compléter. Et donc il n'y a pas de capital minimum.
Avant de passer au point de vigilance, quelque chose à rajouter sur l'intérêt ?
Il y a plein de choses à rajouter, puisque allez, on ne conçoit une SCI que dès l'instant où on a un objectif. Plutôt. C'est du sur-mesure.
D'accord.
On ne conçoit pas une SCI pour dire, voilà, oh j'en continue une parce qu'on peut transmettre mieux, etc. Non, on continue un objectif pour dissocier le pouvoir politique du pouvoir économique. Hein. Le gérant peut très bien décider lui-même de l'affectation du bien. Mmh. On peut très bien constituer une SCI pour morceler, transmettre au fil de l'eau à ses différents enfants, tout en contrôlant la gérance, indéboulonnable par nature, puisque le gérant ne pouvant être évoqué qu'à une majorité qui ne saurait jamais être atteinte sans le code-part de titre qu'il détient. Donc voilà, donc on le conçoit, c'est du sur-mesure.
Bon, les risques, les principaux.
Il y a des risques fiscaux. Donc il y a un risque fiscal. Tout d'abord, vous savez que le conjoint survivant, lorsqu'il hérite de la résidence principale, eh bien il décote de 20%. Bah pas pour la SCI. Si la SCI constitue le logement principal des époux, en cas de décès de l'un d'eux, il n'y a pas de décote de 20%. Idem en matière d'IFI. La résidence principale supporte une décote de 30%. Pas en matière... On peut pas tout avoir. Et puis, on peut pas opter aussi pour le microfoncier. Vous savez que lorsque vous avez 15 000 euros maximum de revenus fonciers, si ces revenus proviennent d'une SCI, vous pouvez pas opter pour le microfoncier avec l'abattement de 70%. Donc, sauf si vous détenez un bien par ailleurs. Donc, en tant que tel, il y a des contraintes, il y a des risques fiscaux, puis il y a un risque aussi qui est important. C'est les obligations comptables. Le principal risque des SCI, c'est les SCI qui n'ont pas de vie sociale. Donc, il y a des obligations comptables. Il faut des assemblées générales. Il faut déclarer dans les 2072 lorsque on n'est pas sujetti à l'IS. Il faut que cette vie sociale puisse aussi être publiée. Hein. Les grèves, donc il y a des formalités légales, il y a des coûts administratifs. Il faut le suivre. Il faut qu'il y ait une vie sociale. Pas de SCI sans vie sociale.
Mmh. En conclusion, l'intérêt des SCI.
Un intérêt qui se fait dès l'instant où on a créé cette SCI dans un objectif donné et en l'adaptant aux besoins des créateurs. Donc en tant que tel, ça n'a aucun sens, ça n'a de sens que dès l'instant où ça a été pensé en vue d'objectifs fixés.
Voilà, c'était Benoît Lombard de Laplace, du groupe Laplace, qui nous expliquait ce que sont les SCI et pourquoi elles ont le vent en poupe. Il y a un autre support d'investissement qui a le vent en poupe et on en parle tout de suite avec Julie Cohen-Hurton. Bonjour Julie.
Bonjour Vincent.
C'est un support aussi décrié qu'attractif pour lequel on va vous retrouver tout à l'heure à partir de midi et quart.
Eh oui, on se retrouve tout à l'heure en direct sur tous nos réseaux sociaux, vous l'avez dit, à partir de midi 15 pour parler crypto. Alors comment investir? Comment bien choisir sa plateforme, quels sont les pièges à éviter. On va tout décrypter et notre experte du jour pour nous accompagner, eh bien ce sera Caroline Jurado, l'auteur des cryptos de Caro. Alors d'ici là, écrivez-nous, envoyez-nous vos questions à l'adresse bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Vincent.
Eh ben, on sera au rendez-vous tout à l'heure, midi et quart. On a que l'embarras du choix. Il y a tous les réseaux sociaux. Bah, je vais vous regarder sur Twitter, tiens. À partir de midi et quart, tout à l'heure. Voilà, on fait une très courte pause et on se retrouve pour la deuxième heure de cette émission. BFM Patrimoine, à tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.